RQC.
La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
I still have a dream.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que de l'amour.
Tout homme et à plus forte raison, tout artiste désire être reconnu. Je le désire aussi.
Tous les mêmes, et il y en a marre.
And I'm feeling good.
La compagnie Joker vous propose une immersion dans le processus de création théâtrale. En effet, du 28 avril au 2 mai, la compagnie sera en résidence au Staquet et invite le public à assister à des répétitions de la pièce lesburlins.e.s. L'occasion pour nous de rencontrer son metteur en scène, Acide Boisbaya. Bonjour Acide.
Bonjour.
Pourriez-vous dans un premier temps nous présenter en quelques mots votre compagnie, la compagnie Joker ?
Alors, la compagnie Joker est née de l'association de deux comédiens, passionnés de masques. Cette compagnie est née en 90, donc c'était il y a très longtemps. On aime le masque comme il se faisait en Italie à l'époque, hein, le travail masqué qui est assez spécifique, donc qui est un théâtre de dérision, de plaisir et de transmission aussi avec le public. C'est-à-dire qu'on partage le plaisir avec le public. On aime que le public rie au spectacle. Par l'humour, on dit énormément de choses et des fois, on a plus d'impact des fois avec le rire. On le fait depuis maintenant, donc 35 ans. À travers des spectacles très, je dirais, avec des masques un peu de l'époque, hein, des masques de comédie de l'art. Donc c'est très inspiré de la comédie de l'art. Et ensuite, sur mes mises en scène qui, moi, ne sont pas masquées, mais qui sont plus du théâtre burlesque.
Les Burlaines, voilà le nom de la pièce que vous êtes en train de monter, ou plutôt de remonter, enfin, si je puis dire, lesburlins.e.s. C'est en quelque sorte une revisite de la pièce que vous avez déjà jouée il y a quelques années de cela.
Voilà, c'est un spectacle, une pièce que j'ai écrite en 2013 et qu'on a monté en 2014, donc sur les Burlins et sur la vie de bureau. Mmh. Et ça m'est venu à une époque où il y a eu énormément de soucis avec l'entreprise France Télécom, il y a eu énormément de suicides dans cette entreprise, et puis aussi il y a eu énormément de faits divers de professeurs qui mettaient fin à leur jour. Et je ne comprenais pas, en fin de compte, ce qui se passait. Je me disais, mais comment on peut en arriver là ? Il suffit de démissionner. Mm-hmm. Et donc, j'ai voulu créer cette pièce pour parler de ça, mais avec beaucoup de recul. Donc, ça parle de burn-out, et ça parle du suicide au travail, ça parle de toutes les relations entre personnel,
collègues. Mm-hmm.
Des mises à plat, d'une carrière, de renoncement aussi, de renoncement à une vie privée, des fois, de renoncement à l'enfant pour la femme, de renoncement à plein de choses, à ce qu'ils sont vraiment pour pouvoir progresser dans une structure qui les déshumanise un peu. Mm-hmm.
Mais tout ça avec humour.
Et tout ça avec humour. On rit beaucoup. On rit beaucoup. J'aime parler de sujets graves avec énormément de recul et énormément d'humour. C'est pour ça que j'utilise le burlesque, parce qu'effectivement, ça décale les choses. J'ai eu certaines personnes dans le public qui sont venus me voir en disant mais ça nous fait énormément de bien, parce que ça permet aussi de dédramatiser aussi et de sortir de là où on est, puis se dire ben oui, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on partirait pas. Et c'est vrai que dans le pourquoi les Burlins aussi, ce mot là les Burlins, c'est un ouvrage d'Alfred Sauvy qui parlait de la bureaucratie et qui voulait appeler les gens qui avaient la vie de bureau, et il voulait pas les appeler des bureaucrates, parce que c'est pas la même chose. Donc il voulait et donc il a pris Burlin en analogie avec le châtelain. Le châtelain, il est maître du lieu et esclave du lieu. Et en fin de compte, les Burlins, c'est la même chose. Ils sont esclaves du lieu, mais en même temps, on leur dit, mais il faut démissionner. On leur dit, oh non, pas du tout, il faut absolument que je fasse. Ils sont très consciencieux, ils veulent travailler.
D'accord.
Et ils s'oublient, en fin de compte. Ils oublient vivre un peu.
Donc c'est un univers un peu dystopique, bureaucratique, totalitaire, qui rappelle celui, en fait, décrit par George Orwell, hein, dans son roman 1984, le film Brasil de Terry Gilliam, ou encore celui des temps modernes de Charlie Chaplin, un univers kafkaïen aussi.
C'est ça.
Tous ces artistes que je viens vient de citer sont des sources d'inspiration
absolument,
pour vous.
Absolument, oui. Vous êtes dans le mille.
D'accord.
Au Brésil, oui. J'ai monté le Baron Munchausen aussi, qui s'est joué à Staquet. Donc, en ayant vu le film de
Terry Gilliam,
c'est quelque chose vraiment
qui vous interpelle beaucoup.
Moi, j'aime le décor, j'aime tout ça, j'aime les machineries, j'aime le théâtre, grand théâtre, en fait, pour le grand public.
La folie, l'absurde.
Oui, absolument, absolument. Mmh. Parce que le burlesque, c'est aussi l'absurde. Mmh. C'est pour ça qu'on traite ça de manière burlesque et pas du tout de manière réaliste. Il y a du réel dedans. On part du réel, on parle de la justesse et on l'agrandit. On l'agrandit jusqu'à ce que ça se décale et que ça crée l'humour, le rire. Mais ça reste vrai, ça reste juste.
Alors j'aimerais vous demander comment tout commence. Quelles sont en quelque sorte les prémices d'une création de pièces, que ce soit une réinterprétation d'un texte ou carrément l'écriture d'un texte?
Alors l'écriture d'un texte, ça part d'abord par une volonté. Et moi, quand j'ai une envie de créer un texte, je vais l'écrire. Et donc je m'enferme, je suis obligé de m'enfermer et de passer dans une autre dimension. Il ne faut pas qu'il y ait des choses autour de moi, il faut que je parte. Souvent je m'en vais.
Oui.
Je m'enferme dans un hôtel et je suis devant ma feuille blanche. Et puis j'attends que ça vienne, quoi. Et puis,
d'une traite ?
Bah, ça peut venir d'une traite, mais alors j'ai une façon d'écrire qui fait que je ne l'écris pas comme quelqu'un qui regarde la pièce, mais je l'écris comme quelqu'un qui joue la pièce.
Donc, oui, parce alors, que vous avez ce regard de comédien également.
Voilà, c'est ça. Je suis d'abord comédien, et maintenant je suis aussi metteur en scène. Mais dans les burlins, par exemple, pour écrire la scène, alors c'est pour ça que je m'enferme loin, pour pas qu'on me voie faire, parce qu'on me prendrait pour un schizophrène complet. Je fais les scènes moi tout seul, je fais tous les personnages, etc. Et j'écoute en même temps, donc je l'ai fait, j'écoute, voir si ça sonne pas, etc. Et ensuite, il y a toute une partie d'écriture là-dessus, sur des scènes. Et ensuite, j'aime faire les répécritures, c'est-à-dire d'arriver avec ma matière, qui est un peu brute, mais qui est là quand même, des échanges. Et ensuite, je donne ça aux comédiens. Parce qu'avec les comédiens, d'abord, je travaille sur une construction de personnages. C'est-à-dire que je crée les personnages hors de la pièce, et ensuite, je leur donne la matière, qui est le texte que j'ai écrit. Et je vois si ça fonctionne. Parce que c'est pareil sur les personnages, on a travaillé sur une vérité, faut que des personnages réalistes, mais agrandis et emmenés dans le burlesque. Et du coup, ils sont justes. Et je leur donne un texte que je pense juste et aussi dans une mécanique. Alors, dans le texte, ça peut être la situation qui peut être comique, ça peut être le rythme qui peut être comique, ça peut être la répétition qui peut être comique. Y a plein de facteurs. Et donc, ça, je donne ça aux comédiens en répécriture. C'est-à-dire que je leur donne, ça se modifie. Et je reprends tout ça, et je retourne m'enfermer, et je peaufine pour leur redonner ensuite.
C'était ma question suivante. À quel moment donc vous tenez compte du retour justement des comédiens?
Une fois que j'ai un peu de matière, je leur donne. Bien sûr, préalablement, j'ai travaillé avec eux le personnage. Ce que je veux dans le personnage... Pour moi, le personnage, il n'existe pas que dans le texte. Il existe, de base. Donc le texte, c'est juste des indices pour dire voilà qui est le personnage.
Oui, vous leur expliquez comment vous l'imaginez.
Exactement. Ouais, mais je prends aussi une part énorme pour que le comédien puisse donner sa proposition. Et il faut qu'il y ait une proposition du comédien pour qu'il puisse s'approprier aussi le personnage. Ça, j'y tiens beaucoup. Moi, j'aime que mes comédiens s'approprient le personnage. C'est leur personnage.
Donc il y a une part d'improvisation aussi de la part du
comédien. Dans les répécritures, oui, absolument. Absolument.
C'est pas vraiment un cadre structuré que vous demandez. Vous laissez vraiment une place à l'improvisation, comme vous l'avez fait avec le CID à l'improviso.
À l'improviso,
oui. Donc reprendre des grands classiques comme le CID de Corneille pour en livrer une version Commedia dell'arte, c'était quand même audacieux.
Mais c'est le même travail, en fin de compte.
Oui.
Mais la compagnie, vraiment, s'il y a un terme qui nous colle vraiment à la peau, c'est un théâtre de personnages. C'est d'abord un théâtre de personnages. Je travaille d'abord le personnage, le texte vient ensuite. Si le personnage est là, le texte sera dit. Or, comment le texte va être dit, ça va être juste.
C'est ça.
Parce que le personnage sera juste. En fin de compte, c'est une recherche de la justesse et de la vérité, mais il y a énormément de façons de dire la vérité. Énormément. On peut dire bonjour de 50 manières différentes en restant juste et en restant le personnage. C'est pour ça que je laisse une part aussi au comédien pour s'approprier aussi le texte et puis la scène. Moi, je donne un cadre. Je donne un cadre très rigoureux. Attention, le comédien ne fait pas ce qu'il veut. Il y a un cadre très rigoureux par le texte, le sens du texte, etc. Mais ensuite, il y a encore, dans ce cadre-là, une liberté énorme. On peut encore raisonner autrement. Et chaque soir, justement, la recherche du vrai et de l'instant fait en sorte qu'à chaque soir, c'est différent.
Oui, vous disiez donc pour cette pièce que chaque représentation était unique.
Absolument, oui. Absolument. Mais c'est obligatoire. De toute façon, je pense que De toute façon, moi, personnellement, en tant que comédien, si je fais la même chose que la veille, je m'ennuie. Mmh. Mmh. Je m'ennuie. J'ai besoin de trouver, sans changer le texte, oui. sans changer l'intention, l'objectif, le comment change tout. Ça reste une vérité. Et la vérité, il y a plusieurs chemins pour arriver à la vérité. On peut, à chaque fois, découvrir le texte comme si c'était la première fois et retrouver cette essence même de du qu'est-ce qui va se passer et que le personnage se dit aussi qu'est-ce qui va m'arriver. Et quand on est dans cette position-là, automatiquement, il y a cette suspension qui fait que le public aussi est en suspension avec nous.
Le comédien nourrit le personnage, mais le public aussi, quelque part.
Exactement. Mmh. Exactement.
Alors, comment arrive-t-on dans le cas du site à l'improviso voilà. à proposer à la fois un classique tout en improvisant ?
Il y a des règles. Ça se fait pas comme ça n'importe comment, il y a des règles très 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 rigoureuses. J'apparente ça au jazz. Mm-hmm. C'est un peu la même chose.
Une jam.
Le jazz.
Mais une jam en jazz.
Voilà, c'est ça. Et en jazz, les musiciens se mettent d'accord sur une grille d'accord, sur une mélodie, et c'est très rigoureux, il y a un cadre.
C'est ça.
Et dans ce cadre, on peut partir faire des choses complètement
qui ne sont pas écrites. Des petits solos qui arrivent, qui s'en vont,
etc. Ouais. Mais ces solos-là, ils sont... Alors, en jazz, c'est le musicien qui décide, alors que là, c'est l'instant qui décide, c'est la réaction du public qui décide, c'est l'erreur qui décide. Et là, une porte s'ouvre, et on tient la maison, et le comédien ou les comédiens peuvent ensemble ou seuls partir en improvisation. Mais il y a un travail énorme pour ensuite revenir là où on était exactement. Et en plus, c'est que cette improvisation vienne amplifier ce qu'on a déjà fait. Mm-hmm. Et ça demande une écoute énorme, une ouverture d'esprit énorme et une capacité de concentration énorme.
C'est costaud au niveau des comédiens.
Mais ça demande du coup énormément de souplesse. Mm-hmm. C'est qu'il y a beaucoup de rigueur, mais aussi beaucoup de souplesse. Mm-hmm. Et ça ne peut être fait qu'avec cette rigueur énorme et cette souplesse énorme. Les deux vont ensemble. Et souvent, on confond rigueur et rigidité. Là, non, du tout. C'est la rigueur par la souplesse.
Alors, comment travaillez-vous l'émotion dans vos mises en scène ? Peut-on parler de technique pour susciter justement des réactions chez le public ? Ou c'est...
L'instant. Moi, je compte sur l'empathie du public. Je demande au personnage, parce que le comédien n'est plus comédien, je parle directement au personnage, des fois, pour le diriger. Comme j'ai travaillé le personnage en dehors du texte, je peux lui parler directement au personnage. Ça, c'est un avantage énorme. Une fois que le comédien est le personnage, on peut lui donner n'importe quel texte, il pourra le dire. Mm-hmm. Donc ça, c'est important. Et des fois, je peux m'adresser directement. Alors, je m'adresse aussi au comédien, bien sûr, mais des fois, je peux m'adresser directement au personnage pour lui demander, mais alors il est là, et puis du coup on a un travail ensemble, comédien, personnage et metteur en scène. Je sais que c'est très schizophrénique, mais c'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on arrive, nous, à trouver le plaisir de le faire. Parce que je suis fondamentalement persuadé, enfin c'est mon choix, de travailler dans le plaisir. On construit dans le plaisir. Je sais qu'il y a d'autres écoles où c'est dans la souffrance ou dans le... voilà, moi c'est... Ça passe par le plaisir. Je pense que le désir est très important là-dedans. Donc, à partir du moment où on a du désir à créer un personnage, ce personnage est vivant, on le fait le plus réaliste possible, il va ressentir les choses. Moi, j'ai toujours émerveillé des réactions du public. Toujours. Parce que quand je crée des spectacles, je ne sais pas ce que le public
va. C'est ça, oui. Il y a parfois des moments où vous n'y attendiez pas, enfin, à une réaction
souvent,
ainsi.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et on prend en compte... C'est-à-dire que alors, dans les burlins moins, parce que sur les règles, dans le site d'un improviso, il n'y a pas de quatrième mur, on parle directement au public, comme on le faisait en Italie il y a très très longtemps. Et donc il n'y a pas de quatrième mur comme le clown, comme tous ces formes de théâtre-là. Donc on est en lien direct, il n'y a pas de souci. Par contre, sur les burlins, comme j'ai voulu parler d'administration, de base, le public ne pouvait pas exister. Donc on a des fois des règles où on prend en compte. À des moments, on déchire ce mur pour pouvoir y accéder, et puis on referme derrière. Donc il y a toute une technique importante pour susciter l'empathie du public. On a envie qu'il respire avec nous. Parce que si nous, on est persuadé de ce qu'on fait, si on le fait le mieux possible et qu'on l'investit encore plus, le public, de toute façon, il vient pour qu'on lui mente. Il veut un beau mensonge sincère. Et donc si on ment, parce que c'est un mensonge quand même, on est quelqu'un d'autre,
oui,
on le sait,
bien sûr.
Justement, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des schizophrènes. Donc on sait qu'à ce moment-là, on va être quelqu'un d'autre, donc on fait les choses le mieux possible, et on attend effectivement cette empathie. Le public, il y a un contrat, quand il vient dans la salle, mentez-moi avec assurance, d'accord, mais je veux...
Avec talent.
Voilà, et avec talent, alors on fait ce qu'on peut, mais pour l'instant, je touche du bois, le public a toujours été là.
Et comment qualifieriez-vous votre art du théâtre vivant et moderne ? Vous l'avez dit tout à l'heure, burlesque aussi, parfois ?
Oui, bien sûr, totalement burlesque. Totalement burlesque, quand on a démarré en 90, nos premiers spectacles étaient un spectacle masqué, inspiré de la comédie de l'art, qui est en fin de compte le parent du burlesque.
Oui.
Ça vient de là, en fin de compte, on a retiré les masques ensuite, mais la répétition, le physique, le mouvement, toutes ces mécaniques d'humour étaient déjà là. Donc ensuite, ça a évolué, et effectivement, les burlins et maintenant les burlaines .e.s sont... c'est du théâtre burlesque totalement.
Quelles sont les caractéristiques du burlesque au théâtre? L'exagération, la caricature, mais il y a toujours, vous le disiez tout à l'heure, un message, un miroir de notre société poussé vraiment à l'extrême.
Dans les burlins, oui, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'avais envie de dire, effectivement, sur le travail dans toute administration, qu'elle soit publique ou
bien
privée.
Sûr.
Hein, où on parle justement le burlesque, donc c'est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une progression, parce qu'on part sur une vérité, vraiment, de base, une vérité qui peut être très très dure,
oui.
Mais si on l'agrandit avec bienveillance, on l'agrandit le mieux possible, on garde cette justesse, et ça se décale, à un moment donné, il y a un décalage, il y a une distance qui est faite, et cette distance-là, effectivement, provoque le rire. Quand on lit les philosophes qui parlent de l'humour, comme Bergson, par exemple, qui a fait un travail sur le rire, c'est très très instructif. On rit parce que c'est humain. D'abord, le rire part de l'humanité. Ça part pas d'autre chose. Quand on voit un animal faire quelque chose, ça nous fait rire, c'est parce qu'on l'apparente à un humain. Il a une réaction humaine. Donc c'est l'humain qui fait rire. Donc même, pour moi, il fait rire dans tous les sens du terme, à partir du moment où on va agrandir et décaler, l'humour s'installe.
Mais c'est ce message qui le distingue du théâtre comique, on peut dire
C'est-à-dire que c'est, ce n'est pas un théâtre de gags.
Oui, c'est ça.
Ce n'est pas un théâtre, un comique qui est dans le verbe, c'est un comique qui est dans la situation.
C'est ça.
Donc le mouvement est très important. C'est fait d'immobilité, de mouvement, de progression, de répétition, c'est fait de regard aussi. Il peut y avoir une scène complète sans aucun mot, mais c'est hilarant, parce que c'est juste des mouvements qui résonnent, qu'on laisse résonner, parce que du théâtre, on prend le temps de laisser résonner les choses, et c'est dans la résonance que l'humour arrive. On peut très bien faire un mouvement associé à une phrase, par exemple, et la laisser, comme ça, résonner tout doucement dans un silence. Et le rire va arriver au bout de 3 secondes, 4 secondes, parce qu'il y a cette résonance. Et il faut travailler là-dessus, justement, sur le texte, oui, la résonance du texte, donc aussi le silence. Le silence, comme en musique, est très important.
Le rythme est très important.
Voilà. Et ce rythme-là, il faut... Le rythme va automatiquement engager une ponctuation. Comme dans un texte, il y a des mots qui sont... Il y a des phrases, il y a des points, des virgules qui donnent du sens au texte. C'est la même chose sur le plateau. Le mouvement doit être ponctué par des points, donc des arrêts, des virgules, des arrêts plus courts, des arrêts plus longs, des répétitions. Quand on veut, comme quand on écrit un texte, c'est exactement pareil. Mais seulement là, on engage le corps et on engage un rythme qui fait en sorte qu'un paysage se dessine et qu'on se demande à chaque fois, à chaque silence, à chaque immobilité, on se dit... Qu'est-ce qui va se passer juste après? Et là, on reste en attente. Et du coup, c'est le meilleur moyen, nous, enfin, je pense, d'atteindre le public et de faire mouche. Quoi.
Donc le théâtre burlesque, vous l'avez dit tout à l'heure, est né de la Commedia dell'arte. Est-ce qu'il a évolué au fil des ans? Est-ce qu'on l'a adapté aux réalités contemporaines?
Oui, je pense. Je ne parle pas pour les autres, mais j'ai du mal à m'inscrire derrière une étiquette. Je ne veux pas du théâtre burlesque. Je fais le théâtre que j'aime. Il s'avère que sur ce spectacle-là, c'est du burlesque, bien sûr, mais je ne m'arrêterai pas. C'est aussi pour ça que la compagnie a du spectacle avec des marques. Moi, je forme également au clown, carrément le nez rouge, etc. Et sur les mêmes techniques, en fait, les bases, ce sont les mêmes. Et je ne m'enferme pas automatiquement dans une forme de théâtre. Et si j'avais envie de monter une comédie musicale, par exemple, il y aura du burlesque dedans, c'est sûr. Mais on ne pourra pas dire que c'est un spectacle burlesque. Parce que c'est intrinsèquement ce que je suis, ce que j'aime, ce que je voudrais voir en tant que public, et souvent je monte les spectacles que moi je voudrais voir, mais en famille, avec mes enfants, avec mes parents. Donc c'est pour ça que c'est aussi c'est pour ça que le burlesque c'est quelque chose que j'aime, parce que c'est pour un public large, c'est pour tout le monde.
Oui, tout à fait.
On n'est pas obligé d'avoir... Quand on a monté le Born Munchausen, il y avait un langage un peu assez simple de la narration, etc., qui des fois était un peu plus compliqué pour certains publics. Sur les burlins, c'est très simple. Mais la simplicité, c'est ce qui est le plus compliqué à trouver. Sûr. Les meilleurs spectacles, c'est quand on se dit, mais bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. La simplicité, c'est très difficile à attraper. Mmh. Et le présent, pareil, parce que dans la simplicité, il y a aussi le présent. Et quand on joue, on essaie de capturer le présent pour pouvoir être le plus précis possible et le plus rigoureux possible.
Alors, tout au long de cette interview, on a compris l'importance que vous accordiez au personnage. C'est pourquoi vous avez développé, j'imagine, une école du personnage. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Moi, on m'a enseigné cette technique. Je l'ai digérée et effectivement... sur les spectacles que je monte, je pars par le personnage. Le personnage qui porte tout. Donc d'abord, on travaille le personnage en dehors du texte. On retire le texte, on dit, je vois là, on parle du personnage, voilà, il est comme ça, il est comme ci. Et on teste des choses, on teste des vérités, on voit si... Mais ça part dans la démarche, ça part dans les... Pour être humain, il faut des tics. Pas juste la démarche, il y a des tics, il y a des façons de bouger la tête, il y a des façons de se tenir, des colères, des choses plus... toutes les émotions qu'on peut ressentir hors du texte. Mm-hmm. On fait des situations. Voilà, on voit comment ça peut fonctionner. Et ensuite, ces personnes-là, comment ils fonctionnent entre eux. Donc, et bien sûr, moi, j'installe, comme je sais qu'on va créer des choses, je les mets dans une direction, je les mets dans un cadre. Moi, ce personnage, il va être comme ça. Et puis là-dedans, le comédien va chercher pour trouver une justesse. Et au fur et à mesure des années, maintenant, ça fait 35 ans maintenant que j'ai fait ça, cette technique-là qu'on m'a enseignée, Mario Gonzalez, qui est mon mentor, mon maître à l'époque, quand je l'ai rencontré, il m'a appris énormément de choses. J'ai digéré cette technique et moi, j'ai envie de la retransmettre. C'est vraiment un travail qui ne peut que se transmettre. Mm-hmm. Si on ne le transmet pas, il meurt, de toute façon. Et il vit et il évolue en moi quand j'enseigne. Parce que quand j'enseigne, j'apprends autant. Encore maintenant. C'est ce qui fait que je ne sais jamais ce qui va se passer. Moi, quand j'ai des stagiaires devant moi, des élèves, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Donc c'est une énigme. Chaque élève est une énigme par où je vais passer pour lui expliquer qu'est-ce que l'immobilité, qu'est-ce que le mouvement. Et une chose qui est importante, quand je commence à travailler avec eux, je leur apprends d'abord à ne pas bouger. Parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Une phrase. Quand on ouvre un livre, la phrase commence silences. Par un mot. D'accord Automatiquement, donc ça commence. Oui. Le théâtre, au début, on fait le noir, donc on ne voit plus rien, et il y a silence. Mmh. Et ensuite, on démarre. Donc il faut un début. Donc et la ponctuation du mouvement, elle passe par des immobilités. Donc si on ne sait pas s'arrêter, le mouvement est dilué dans des mouvements qui ne sont pas précis, qui ne sont pas voulus. Et on subit en fait ce qu'on raconte. C'est-à-dire que si on veut qu'un geste soit vu, il faut qu'il n'y ait rien avant et rien après. Et que le geste soit précis. Donc il faut travailler ça, et c'est très compliqué au départ, parce que c'est une déconstruction. Sur le premier temps, on travaille sur la déconstruction. De mettre une mise à plat, ce n'est pas une destruction. Je parle de déconstruction, c'est de mettre à plat ce qu'on est, notre outil. On démonte notre outil. Voilà comment je bouge, et on conscientise. Ah tiens, je fais ça, ah tiens, c'est bizarre, tiens, j'ai un porté de tête comme si, c'est pas... On va travailler le point fixe, le point neutre, le point zéro. Ce qui fait que, en fin de compte, ce qu'on a besoin pour faire une action, juste ce qu'il faut, ni trop, ni trop peu. C'est-à-dire qu'un public qui regarde, si on est sur le point zéro, qui regarde quelqu'un se lever d'une chaise et aller s'asseoir sur l'autre chaise, on lui dit, qu'est-ce que tu as vu ? Ben, j'ai vu une personne se lever et aller s'asseoir sur l'autre chaise. Quoi d'autre ? Ben, rien. Maintenant, si on n'est pas dans le bon rythme, le public va dire, ah ben, je l'ai vu, elle était pressée. Ah ben je l'ai vu, elle prenait son temps, elle se baladait. Donc c'est des choses comme ça qui sont peut-être anodines, mais que je travaille justement sur le personnage, parce qu'ensuite, après ce travail-là, il y a la construction de quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui c'est, et on va chercher ensemble, avec le stagiaire, avec l'élève, et on a à chaque fois c'est une naissance, quoi. Et une naissance est toujours super beau. On se dit, mais qui est devant nous ? Le comédien ne le sait pas, moi je ne le sais pas, mais mon travail c'est de mettre un cadre et de travailler ce personnage-là. Et ensuite ce personnage-là, on peut le mettre où on veut, on lui donne le texte que l'on veut, si le personnage est là, ce sera juste. Donc on travaille, comme disait mon maître, on travaille le chanteur, pas la chanson. Mm-hmm. Donc moi je travaille le personnage, pas le texte. Mais après, on lui donne du texte et on voit comment il résonne. Après, il y a la mise en scène.
Le comédien amateur débutant a tendance à vouloir ponctuer toutes les...
En faire trop,
oui,
toujours.
C'est ça.
Il y a beaucoup de théâtre aujourd'hui où c'est le mouvement d'abord. Il faut bouger, il faut courir, il faut sauter, etc. Et bon, quand on démarre, tout le monde pense, on fait du masque, donc ils sont habillés, ils sont prêts à s'essouffler et à suer. Et je leur dis, non, asseyez-vous, ne bougez pas.
Mais comme vous dites, ça doit être dur d'apprendre l'immobilité.
Bien sûr que c'est dur, parce qu'on est dans une société aussi où on ne prend pas le temps de s'arrêter. Il faut faire. Quand on vous pose une question, imaginez, il y a une règle très simple, c'est qu'on attend 3 secondes avant de faire quoi que ce soit. Imaginez dans la vie, si on vous dit comment ça va et vous prenez 3 secondes. la personne qui vous a posé la question, elle panique.
C'est sûr.
Elle panique complètement.
Ouais.
Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a un truc qui ne va pas. Et à la fin, vous dites, oui, ça va. Vous avez pris le temps de réfléchir à la question qu'on m'a posée et de lui répondre sincèrement. Qui répond sincèrement à ça va?
Ah oui, clairement.
Personne ne répond sincèrement.
Non,
c'est voilà. Donc,
c'est automatique.
Et sur scène, on doit être sincère. Donc quand on pose une question, on se dit, ah là maintenant, je suis comment? Ah bah, je suis bien. Et on répond clairement et on le choisit. Et surtout, on choisit le comment on va répondre.
Ah bah, ça donne super envie de faire vos formations, en tout cas. Elles s'adressent tant aux professionnels qu'aux amateurs.
Alors ça, c'est
j'ai
quelque
cru
chose,
voir ça, oui.
C'est quelque chose que c'est une condition. J'ai déjà fait des stages qu'avec des professionnels.
Ah, vous les mélangez? Vous mélangez
les gens?
Ah, d'accord.
Je les mélange.
Ok.
Alors, il y a en proportion, bien sûr. Je les mélange parce que l'un peut apprendre de l'autre et l'autre de l'un. C'est vraiment important. Bien sûr, l'amateur, il n'est pas novice. Il faut d'abord qu'il passe par des...
Oui.
Voilà. Et ceux qui ont déjà l'expérience de la scène vont être dans un rythme un peu plus soutenu que les amateurs. C'est pour ça que... Mais il y a certains amateurs qui ont déjà un rythme soutenu. Hein.
Mm-hmm.
Il faut faire vraiment attention. Pour moi, la différence entre un amateur et un professionnel, c'est le salaire. Hein.
Vous dites que la plupart de ces formations reposent sur le travail du cœur. Que voulez-vous dire par là? Donc, cœur, C-H-O-E-U-R.
Voilà, cœur. Ouais. Cœur, c'est être ensemble,
oui.
Déjà, et être centré, être vrai. Et le cœur, en fin de compte, c'est un ensemble de règles qu'on retrouve partout. C'est les règles universelles fondamentales du théâtre. Quand il y a un public, je suis là, il y a du mouvement, comment j'agence le mouvement, etc. Ça fait énormément de règles qui sont mises au service d'un parcours. Il y a un parcours, en fin de compte, dans le cœur. Il y a un protocole, il y a des choses à faire, c'est juste des déplacements. Et avec cet exercice-là, qui est, par exemple, là, je viens de finir la première semaine de la déconstruction sur le cœur. Et donc, c'est l'apprentissage de toutes ces règles qui vont nous aider à conscientiser notre corps, ce qu'on fait, comment on bouge, comment on s'arrête, est-ce qu'on sait s'arrêter, et on va travailler là-dessus. On va travailler le point fixe, le point zéro. C'est-à-dire, justement, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on a juste l'action, on n'a pas plus, on n'a pas le jeu. Et je leur apprends, en fin de compte, à ne pas jouer, parce qu'on joue tout le temps. Tout le temps, on joue. Et pourquoi on joue souvent? C'est pour cacher les erreurs. À chaque fois, on fait une erreur, oui, mais et puis on fait un bon mot, ou alors on la cache, etc. On dépense de l'énergie pour pas qu'on la voie. Et c'est normal, parce que de tout temps, dès qu'on fait une erreur, c'est de pour un moins quand on était élève.
Mm-hmm.
Donc c'est pas bien l'erreur. Et tout le travail sur la déconstruction, c'est de dire non, l'erreur, c'est très bien. L'erreur, ça va être le moteur.
Et ce stage s'appelle du cœur au nez, donc vous avez abordé le cœur. J'imagine que la semaine prochaine, ce sera le nez.
C'est ça.
Oui.
C'est ça. Donc on part de ça, donc on a tout déconstruit, on a tout mis à plat, on a une ossature, en fin de compte, de lignes de jeu, c'est-à-dire sur des actions spécifiques. Et maintenant, le personnage va arriver. Alors, je ne sais pas du tout qui va arriver. Les stagiaires ne savent pas non plus qui va arriver.
Quand vous parlez de nez, alors c'est...
C'est le nez de clown.
C'est le nez de clown.
Ouais, c'est le nez de clown. Absolument. Je dis pas clown, parce que ça, c'est...
C'est péjoratif pour vous?
Non, pas péjoratif, mais c'est tellement utilisé à toutes les sauces.
Oui.
Y en a partout. Il y a, voilà, y en a en grande surface, en tête de gondole. Il y a des, voilà.
C'est quoi pour vous un clown, dans le sens noble du terme alors?
C'est, c'est difficile comme question. C'est quoi un clown? Je crois que j'en sais rien. Moi, je dis à mes stagiaires à chaque fois, quand vous ne savez pas, dites je ne sais pas.
Oui.
Et là, j'en sais rien. En fait, parce que c'est un clown.
D'accord.
Bah oui, parce que quand la naissance arrive, je sais ce qui est juste. Je sais que le clown va agrandir. Et donc, automatiquement, la personne, ce qu'elle va faire, c'est ça vient d'elle. Et donc, si elle l'agrandit, ça va rester juste. Et voilà. Et puis, peut-être qu'il y aura un clown après. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais alors, pour l'instant, ça a toujours donné naissance à un clown. Donc, le nez rouge.
Oui.
Mais ce clown-là, on peut lui retirer le nez rouge. Il restera un clown.
Mm-hmm.
Voilà, ça c'est juste le petit nez rouge que l'on met. Mais pour moi, dans les burlins, les personnages sont burlesques, mais ce sont des clowns.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas le nez rouge, mais c'est pareil. Et même dans d'autres spectacles, il y a plein. Charlie Chaplin, pour moi, c'est un clown également. Laurel Hardy, c'est des personnages.
Oui,
clown, c'est un personnage.
Oui,
donc moi, je travaille le personnage,
le
personnage clown. Mais moi, mon travail, c'est le personnage. Il peut être clown, il peut être masqué, il peut être burlesque.
Oui.
Mais moi, je travaille le personnage.
La compagnie Joker sera en résidence au Staquet du 28 avril au 2 mai. Les comédiens invitent le public à découvrir l'envers du décor, à assister aux répétitions des burlins.e.s le mardi 29 avril de 11h à 12h et de 15h à 16h, ainsi que le mercredi 30 avril entre 15h30 et 16h30.
Alors, le public verra ce qu'il peut-être ne verra jamais ailleurs. Ils vont voir des gens en chantier. Le public est super important. C'est vrai que quand je crée un spectacle, c'est pour le public. Donc, vous verrez comment un comédien travaille, comment il bute sur les mots, comment il recommence, comment il s'est trompé, comment on cherche, comment on trouve.
Hâte de voir ça, l'envers du décor, enfin l'envers de la mise en scène.
Décor, oui. Oui.
Merci à Cid pour cette merveilleuse interview. Voilà, il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans un mois, le vendredi 16 mai, entre 13h et 13h30 sur RQC. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC, celui du Centre culturel de Moucron, www.centreculturel-de-moucron.be, ainsi que sur Spotify. À bientôt pour un nouvel épisode.